Je passe la parole à Thierry Lhermitte.
Il y a un domaine qui est un petit peu différent de ceux qui ont été évoqués, dans lequel il y a des catastrophes et des erreurs, et dans lequel on se demande s'il y a une démarche qualité qui est entreprise et comment elle pourrait l'être, le cas échéant, c'est le domaine judiciaire. Voilà. On se demande, quand on est témoin de la catastrophe d'Outreau, dans lequel il y a défaillance systémique et défaillance individuelle, comment, après la commission Outreau, comment on peut faire mieux? Est-ce que les discussions que vous évoquiez dans un hôpital ou dans d'autres services, est-ce que ces discussions ont lieu au sein de l'administration judiciaire?
Non, je pense pas. La discussion, la grande discussion, qui était d'ailleurs un traumatisme important pour beaucoup de magistrats, c'était la commission parlementaire. Et alors, la commission parlementaire, si vous avez l'occasion de vous pencher sur ses travaux, moi je n'ai pas pu les entendre tous parce que c'est considérable, c'est une qualité de travail absolument passionnante où il y a tout ce qu'il faut, il y a tout. Mais alors le résultat de tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement français, c'était quoi? Ben, ça a été d'essayer de faire du différent avec du même. C'est-à-dire qu'on va ajouter un juge d'instruction au premier qui existe. Ça va faire deux juges d'instruction, ça va évidemment résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, j'avais fait jadis le parallèle entre l'affaire du Mont-Saint-Odile et l'affaire Villemain. Bon, dans un cas, il y a le crash judiciaire de l'affaire Villemain, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et dans l'autre cas, vous avez un accident d'avion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bureau d'enquête accident, une commission, il y a des préconisations, et bon, et ça fait ça a un résultat. Un résultat extrêmement positif. Et c'est vrai que le système judiciaire est un de ceux qui a le plus de mal à se remettre en cause. Par exemple, un élément très important de cette tragédie de Outreau, c'est que, de mon point de vue en tout cas, le système judiciaire a fonctionné comme un œuf. Le parquet qui fait partie du même corps que les juges qui font partie du même corps que le parquet, la chambre d'instruction qui finalement vit dans une certaine osmose avec les juges d'instruction, tout ça ronronne, ça fait un œuf bien maintenant. Et puis à côté, vous avez des avocats qui ont des bougies pour percer l'œuf et donc ça ne marche pas, et qui sont souvent pas très efficaces parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Quand ils le travaillent, c'est du travail de militant. Eh bien, il n'y a pas eu une analyse de la commission parlementaire pour expliquer qu'un système judiciaire qui ne comporte pas des antagonismes fonctionnels naturels et organisés, c'est un système qui ne peut pas marcher. Ça ne peut fonctionner que s'il y a des antagonismes fonctionnels qui sont organisés. Et ça commence par envoyer les procureurs dans un autre immeuble, les juges. Enfin, je vous dis ça de façon très très imagée. C'est pas simplement métaphorique. Tant que vous n'aurez pas deux corps différents et que le juge ne verra pas arriver le procureur comme il voit arriver l'avocat, simplement il n'a pas le même client, il n'y aura pas cet antidote. Tant que vous n'aurez pas un système d'aide légale qui sera très perfectionné et qu'on n'arrivera pas à faire accepter aux avocats qu'ils le professionnalisent et qu'il y ait une sorte d'internat des avocats comme il y a un internat de médecins, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui l'internat de médecine, enfin, ça a été une belle période quand même. Je pense que ça ne se fait pas, ça ne s'audite pas. Et il n'y a pas de résultat parce que c'est très mystérieux pour les gens qui sont terriblement émus quand il se passe une catastrophe. Et puis c'est tout. Et de même qu'ils sont terriblement émus quand il y a un livre qui paraît sur les prisons et puis tout le monde pleure. Et puis un mois après, quand il y a un crime odieux, ben tout le monde pleure dans l'autre sens. Donc on touche à des choses qui sont, je ne dirais pas que c'est plus compliqué que la médecine parce que ce serait quand même très prétentieux. Mais je crains que ce soit presque plus compliqué.
Je pense qu'on peut classer les organisations, les évaluer en fonction de la façon dont elles considèrent l'erreur. Est-ce que c'est quelque chose de honteux qu'il faut cacher ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va examiner, discuter, considérer comme quelque chose qui peut arriver? Et j'ai effectué ma petite classification des organisations en fonction de la façon dont elles considèrent l'erreur comme un moyen de progresser ou pas, et la fiabilité qui en découle. Alors c'est tout à fait personnel, hein, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, mais parmi les organisations les plus fiables, je mets l'aviation civile, les sous-marins nucléaires, les porte-avions, où vraiment l'erreur est considérée comme un moyen de progresser. Après, je mets la santé, hein, qui véritablement commence à considérer l'erreur comme un moyen de progresser. Il y a la NASA de Challenger, où là, l'erreur était complètement rejetée. Et puis après Columbia, la NASA a véritablement changé de culture et s'est mis à considérer les erreurs comme un moyen de se former, de progresser, et s'est rapproché de ce qui se faisait dans les sous-marins nucléaires américains. Et puis de l'autre côté, parmi les organisations les moins fiables, Je mets la justice, où là, l'erreur est encore considérée comme quelque chose de honteux. Des magistrats, on a l'impression que reconnaître la possibilité de faire une erreur judiciaire, c'est complètement impensable. L'arbitrage de foot, par exemple, aujourd'hui, on considère qu'une erreur d'arbitrage, on ne doit pas en parler. Et puis entre la NASA et l'arbitrage de foot et puis la justice, je mettrai les banques. Parce que les banques, là, on est aussi au début d'une prise en considération des erreurs.
Donc, monsieur
Jean Pariès, dans un passé lointain, rapporteur général de la commission d'enquête sur le Mont-Saint-Odile, et je dirige maintenant une société de conseil. Je ne vais pas rebondir sur ce qui vient d'être dit, je vais plutôt envie de revenir en arrière, parce que je trouve qu'on évacue un peu vite la question initiale, et peut-être même centrale de la soirée, qui est: quel est le rôle de la sanction fondamentalement dans la sécurité d'un système complexe? Est-ce qu'elle en a un de rôle? Est-ce que c'est entièrement négatif? Maître Soulez-Larivière a un petit peu répondu, mais je n'ai pas vraiment de réponse fondamentalement à cette question. Et ça fait 20 ans, moi, que j'essaye de faire passer dans l'industrie l'idée que la sanction, c'est pas bien, que ça n'a aucune vertu, qu'il faut abandonner. Et ça résiste énormément, on n'y arrive pas. Et on a des arguments tout simples en face du genre pourquoi ça marcherait sur la route de façon spectaculaire et pourquoi ça ne marcherait pas chez moi? Et qu'est-ce que je fais si je ne peux plus sanctionner? Comment je reconstruis mon management? Comment je garde une autorité? Comment je garde une logique de fonctionnement à mon entreprise? Ce n'est pas des questions simples. Et je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça ce soir. J'ai trouvé des arguments qu'on connaît bien depuis 20 ans sur les effets pervers de la sanction. Mais ça ne suffit pas de dire ça a des effets pervers. Il faut aussi expliquer comment on peut s'en passer complètement, si c'est imaginable, puis quels sont les effets positifs, si ça en a. Et est-ce qu'on peut réussir ça en continuant à parler, comme on l'a un petit peu entendu ce soir, d'erreur? Est-ce que la notion d'erreur a une vertu, elle, a un sens, une vertu épistémologique intéressante, ou est-ce qu'on pourrait peut-être pas s'en passer? Je me souviens qu'il y a 4 ans, j'avais emmené Jim Reason, qui est un ami, devant un client, une grande organisation, pour qu'il parle un petit peu de son modèle, justement, que les Anglais appellent le Swiss Cheese Model, donc le modèle du fromage suisse, parce qu'il y a des trous dans les tranches. Et en fait, sans prévenir personne, il a fait une présentation d'une demi-heure sur le thème « Le fromage suisse a dépassé largement sa date limite de vente ». Arrêtez de raisonner avec ça, abandonnez la notion d'erreur et vous vous en sortirez beaucoup mieux. Bon, j'aimerais avoir la réaction des intervenants sur ces quelques remarques.
La question est extrêmement difficile, mais je ne ferai que répéter ce que j'ai dit sur la question de la faute intentionnelle. Tous les partisans des politiques de non-punition font quand même une distinction claire entre la faute intentionnelle, qui mérite sanction, et l'erreur. Alors, bien entendu, ce n'est pas toujours évident de distinguer les deux. Un pilote qui fait ce que Patrick Mignon m'a expliqué, un vol touristique, c'est-à-dire au lieu de suivre la route normale, il fait un petit détour pour montrer sa maison de campagne ou voir un coin intéressant. Ce n'est pas prévu dans les procédures, ça va ressortir dans le Quick Access Recorder, mais si le pilote répond, eh bien, ça sera considéré comme une erreur et non pas comme une faute. Mais la faute intentionnelle ou consistant à piloter en se droguant ou ce genre de choses, ça ne fait pas partie de l'immunité. Il y a quand même une distinction.
Oui, je ne sais pas si vous aurez votre réponse. On sent que la pente est raide pour aller dans cette direction.
Olivier Perra, Hafner. 3 petites questions. Quelles sont vos recommandations à l'attention des organismes qui élaborent des normes de manière à être le plus utile possible par rapport aux problèmes à éviter? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on a un retour sur le permis à points, que ce soit au niveau automobile, par rapport à des pratiques telles que l'on connaissait précédemment avec des retraits de permis, donc à l'expérience, l'intérêt du permis à points, parce qu'on peut peut-être le transposer à d'autres domaines. Le troisième point, c'est quel est l'intérêt des structures ordinales qui existaient finalement et qui avaient un pouvoir de police par rapport à leur sujet, puisque moi, j'ai compris qu'il y avait une sorte de deal, à savoir, eh bien, vous nous dites ce que vous avez fait de pas bien, on le garde entre nous, a priori, et la contrepartie, c'est que eh bien, la police est faite en notre sein, mais on partage l'information.
Laurent Sédel.
Je crois qu'il y a une tendance actuelle, intellectuelle, à trop vouloir rapprocher les différents systèmes. C'est-à-dire à trop vouloir rapprocher l'avionique, la route, la médecine. Pour moi, c'est quand même pas du tout la même chose. Alors, j'ai souvent pris cet exemple, j'ai dit, vous voyez, prenez un avion. Chaque boulon, depuis la tête de l'avion jusqu'à la queue de l'avion, on le connaît. Il est identifié, on sait ce que c'est. Vous prenez l'homme, vous prenez les systèmes de santé, on ne connaît pas grand-chose. Alors c'est peut-être un défaut des médecins d'avoir toujours voulu faire croire ou dire qu'ils savaient tout, mais en fait on ne sait pas grand-chose. Les maladies, il y a des limites, nos compétences ont des limites. Donc on est dans un système quand même assez différent. Alors je sais bien qu'en ce moment, tout le monde a dans la tête, oh, les radars c'est formidable, ça arrête les morts sur la route, il y a des procédures de ce type-là qui sont d'une grande efficacité. Bon. Eh bien, je ne pense pas que les appliquer à la médecine, ça marche. Honnêtement, je vous le dis comme je le pense, je crois que ça ne marcherait pas. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que chez nous, il y a un problème, il y a quelque chose de très très important, c'est la vigilance. D'abord, c'est la formation, et ensuite, c'est la vigilance. Vous avez évoqué l'internat. L'internat, c'est très particulier parce que c'est comme du compagnonnage. Quoi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous prenez un jeune, vous le mettez le nez dans les trucs à faire, et il va s'améliorer progressivement, il va apprendre, et en même temps, il va comprendre ses erreurs, parce que c'est ça aussi le compagnonnage, hein, c'est apprendre les défauts, et puis il y a derrière quelqu'un qui rattrape les choses. Bon. C'est donc ce système de formation qui peut éviter au maximum les erreurs. Et donc faire le bilan. Mais faire comme vous dites, c'est-à-dire essayer de faire une sorte de... Enfin, exactement comme dans l'avionique, donc d'avoir effectivement des bases de données des erreurs, c'est certainement intéressant. Ça ne va pas vraiment protéger. Et puis, ce que j'observe, alors là, tous les jours en ce moment, parce qu'on est dans cette culture du risque, on a des procédures qui se mettent en place, c'est que ces procédures, ces protocoles, tous ces systèmes, en fait, entrent en compétition avec la vigilance indispensable. C'est-à-dire qu'on se pose plus la question, est-ce que j'ai vraiment répondu? Et à la limite, moi j'ai des fois parlé avec des pilotes aussi, et les pilotes me disent, mais à la limite, nous on fait le checklist... Mais on se demande des fois à quoi ça sert. Enfin, alors je ne sais pas, j'aimerais bien entendre des gens de l'avionique me dire, mais oui, c'est très 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 utile, ça nous évite plein d'accidents.
Donc je suis commandant de bord sur Boeing 777 et j'ai été officier de sécurité des vols à Air France. Les checklists sont essentielles. Elles sont essentielles parce qu'elles permettent à des gens qui ne se connaissent pas de fonctionner ensemble et de garantir l'application de procédures qui sont préétablies. Lorsqu'un événement qui a été répété au simulateur se produit, on reproduit la checklist, on la lit, on fait des gestes de mémoire, on vérifie avec une liste papier qu'on n'a rien oublié. Ça nous maintient dans, on va dire, 90% des cas. Il est certain qu'il peut y avoir des cas complètement en dehors dans lesquels les checklists ne nous garantiront rien. Et la résistance à la checklist, en plus, c'est quelque chose qui a du mal à venir dans d'autres métiers de l'aérien. Je pense aux mécaniciens. Typiquement, les pilotes, au début, avaient beaucoup de mal à appliquer des checklists parce que c'était reconnaître, quand on avait recours au papier, qu'on ne connaissait pas tout par cœur, qu'on n'avait pas son sujet sur le bout des doigts. Et je me demande si ce n'est pas un peu la même chose, d'ailleurs, pour la médecine, la justice et les banques, évidemment. Un mécanicien qui nous livre un avion sur lequel ils ont travaillé, ils ont touché tout un tas de boutons auxquels nous ne touchons pas en général, parce qu'ils ont besoin de désactiver certains systèmes pour se protéger, pour éviter que des trappes se referment en coupant un individu en deux, etc. Ce qui arrive malheureusement. Et on a beaucoup de mal, nous, à obtenir de ces grands techniciens que quand ils nous livrent l'avion du hangar, c'est-à-dire réparé, il nous le livre avec les interrupteurs, les boutons et les commandes dans la même position que celle dans laquelle on le prend en compte quand c'est un pilote qui l'a laissé, parce que lui l'a laissé en fonction d'une checklist. Et ces mécaniciens nous disent, mais je connais mon métier, j'ai pas besoin d'un bout de papier qui va me dire ce que je dois faire. Alors vous voyez, on est très loin de la couverture par la checklist, parce qu'en fait, eux, ils pensent l'inverse. Ils pensent que si... En tant que mécanicien, mécanicien-chef, formateur peut-être, devant le jeune, devant l'apprenti, il est obligé d'avoir recours à une checklist, alors c'est vraisemblablement que sa formation n'est pas d'une grande valeur puisqu'il ne connaît rien. Donc en fait, la checklist, c'est quelque chose que nous pratiquons parce que nous avons été entraînés à le faire. Et je dirais que la faute, en l'occurrence pour un pilote, ce serait de dévier par rapport à une checklist ou de refuser de la faire. L'erreur pourrait être de ne pas l'appliquer intégralement.
Il y a trois personnes dont madame a demandé la parole depuis longtemps. Et on va prendre les questions groupées et après les orateurs montreront leur talent en répondant à celles auxquelles ils ont envie de répondre.
Sabine Gruyer. En 1988, j'ai visité une entreprise de batteries autonomes qu'on m'avait fait visiter parce qu'elle était exceptionnelle par ses performances et par son management. C'est une entreprise qui, au début des années 80, avait dû licencier massivement son personnel, qui allait vraiment très mal et qui, progressivement, avait réembauché tout le monde. Et ce qui m'avait marqué dans cette entreprise, c'est que vraiment partout, il y avait des affiches où il était écrit « Ne cherchons pas de coupables, trouvons des solutions ».
André-Jean Rigny, conseil d'entreprise, à vous écouter et à écouter les exemples qui sont donnés, j'en viens à me demander si la sanction n'est pas quelque chose de légitime. Chaque fois que l'acteur préfère ses objectifs personnels, y compris des objectifs d'image, d'ego, etc., à la mission globale qui lui est confiée, auquel cas ça nous donnerait une sorte de norme pour sanctionner, qui serait, mais vous êtes d'excellents mécaniciens, personne ne vous le conteste, mais vous avez préféré votre image de mécanicien à l'efficacité de la façon dont vous avez implanté les boutons sur l'avion. Et en cela, si accident il y a, vous pouvez être sanctionné. On peut se demander aussi si l'échec n'est pas inévitable. Chaque fois que l'action elle-même est entreprise sans qu'il y ait des facteurs de motivation au succès suffisants chez l'acteur. Si les facteurs de motivation au succès chez l'acteur sont suffisants, la menace de la sanction existe. Cette sanction, c'est celle qui s'infligera à lui-même en cas d'échec. Lorsqu'il n'a pas une motivation au succès suffisante, la menace de la sanction externe devient mécaniquement utilisable.
Dominique Schmoch, entrepreneur à Averroès Développement. Ce qui m'étonne peut-être, c'est finalement, j'ai l'impression que dans la question de « faut-il punir ?», on mélange deux choses. On mélange l'apprentissage et le retour sur des erreurs possibles. Et finalement, après, la problématique sociale ou sociétale qui a été bien développée du côté du droit, en disant « faut-il effectivement chercher un coupable ?» qui, pour moi, sont deux problèmes radicalement différents et qui ne devraient pas se poser simultanément. On a évoqué là le fait que la cognition collective, donc la capacité d'une organisation à s'interroger sur ses erreurs, est éventuellement favorisée, vous l'avez dit à un moment, par une opposition à l'intérieur, ou en tout cas par un débat. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait un peu imposer partout, c'est-à-dire cette nécessité d'avoir un contre-pouvoir à l'intérieur des pouvoirs institutionnels? Ce que nous savons, nous, comme chefs d'entreprise, puisque nous sommes menacés en cas d'accident du travail, mais qu'en même temps, si nous n'avons pas des syndicats en face de nous qui nous rappellent à l'ordre de temps en temps, ben, je dirais qu'il y aurait encore énormément d'accidents du travail.
On va conclure, donc toutes les questions n'auront pas été résolues. Vous pourrez lire le compte-rendu pour y voir plus clair dans ce qui s'est dit aujourd'hui. Vous pourrez réécouter en podcast ce qui a été dit. C'est à notre manière habituelle qu'on ne résout pas les questions, mais on donne à penser. Mais les orateurs peuvent, s'ils veulent, dire un mot de conclusion ou répondre aux deux questions qui ont été posées.
Oui. Le respect de la loi, c'est quelque chose qui est nécessairement assorti de sanctions quand il n'est pas effectué. Évidemment, on peut discuter quelle loi, loi pénale, etc. Le respect de la loi est structurant dans les sociétés, bien sûr. Et ça, on peut dire que c'est ne pas s'affranchir de la checklist. Là, on entre dans le domaine de la faute, qui doit être sanctionnée. Mais se tromper dans le fonctionnement de l'application de la loi est du domaine de l'erreur. Et qu'on en arrive avec la sensibilité de la gâchette pénale française à quelque chose qui fait disparaître cette distinction et que, à force de vouloir tout pénaliser, finalement, ça fait perdre son importance au pénal et à son effet structurant, que je pense profondément.
Je n'ai rien à ajouter. Je remercie tous les intervenants pour les pistes et les approfondissements qu'ils ont proposés.